Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Ma se ci ho prepotente, a picchiatello, col saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, pamputello, sbarbatello, sfrontatello, spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per bingringhina che ce l'ho? Marcello, son fatto come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un disello, penso so che sono bello, sono il bello di mamma.
Bonsoir e benvenuto sul Nino domani a Palermo, aujourd'hui. On a avec nous un apprenti sorcière. Je vous dis pas son nom, je vous dis que son surnom, La Pointe. Vous le verrez bientôt sur. Vous l'écouterez bientôt dans notre radio. Mais c'est une surprise. Je vous laisse imaginer la surprise et je vous laisse rêver de cet apprenti sorcière. Bonjour La Pointe.
Bonjour.
Merci et on se verra bientôt dans notre émission future. Et alors, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que il n'y a pas eu longtemps, il y a eu les élections, qui c'est un peu une thématique très, qui nous a tous touché de près. Il y a eu une grandissime fréquence aux urnes et malheureusement il y a eu un avancement très puissant du Front National, du Rassemblement National, mais heureusement il y a eu la réponse, il y a eu le Front Populaire avec d'autres partis de gauche qui sont arrivés à échasser le Front National. Et je vous parle de tout ça parce que d'un côté, moi je suis italien, donc en tant qu'étranger, je n'ai pas le droit de voter. Les jours que je suivais les élections, je suivais les dépouillements de résultats, et quand j'ai vu avec mon étonnement que la gauche a gagné, je me suis posé une question, et je me suis dit, mais combien de Français ils sont tristes aujourd'hui? Et combien d'étrangers ils sont heureux aujourd'hui, en considérant que la plupart des étrangers ne peuvent pas voter? Je me suis dit, ce pays n'a pas perdu son sens critique. Un sens critique qui l'accompagne depuis les Lumières, depuis la Révolution, depuis la Commune de Paris. Un sens critique qui a caractérisé toujours la France, qui est dans son ADN. Et malheureusement, avec les élections européennes, avec un peu la situation mondiale, non seulement européenne, on pense à l'Italie, qui est un pays nettement fasciste, et comme d'habitude, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce pays perde son sens critique. J'ai cru trop dans ce pays. Heureusement, il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu, heureusement, son sens critique. Et on parle des sens critiques et on espère que ces sens critiques continuent parce qu'on reprend notre dernière émission, on termine l'émission sur les critiques littéraires justement. Et à propos de la critique littéraire, on va à la critique contemporaine. On a vu, on a parlé de la critique du tout début dans les émissions précédentes, tanto di Disney VM Secle, Madame de Stael, on a vu la critique marxista, la critique psicologique, on a vu le strutturalisme, on a vu la théorie de la réception, on a un peu vu tous les parcours de la critique littéraire. Là, on va vraiment alla contemporaneità au jour d'aujourd'hui. E on parle a propos de sans critique de ce qu'on appelle cultural studies. Le cultural studies, c'est un mot anglais qui veut dire études culturelles. Études culturelles, c'est pas la culture qu'on apprend à l'école, c'est pas l'histoire de Napoléon, l'histoire, je sais pas de qui, des grands rois, de Louis XIV, de Mussolini. La culture, c'est la culture du peuple. Et surtout, quand on parle de cultural studies, on parle des études culturelles qui se sont développées surtout dans le monde britannique et anglophone en général, donc aussi aux États-Unis. Et dans ces études culturelles, on donne voix à ce qui sont les minorités, qui mis ensemble constituent quand même une majorité. Les minorités, par exemple, sont ceux qui étaient considérés comme des minorités, comme par exemple la vision qu'on a eu toujours de la femme était une vision qui mettait de côté la femme, l'homme était supérieur à la femme. Donc il y a le gender studies, qui ne sait pas, gender, c'est pas quelque chose lié. Gender ça veut dire genre en anglais, mais gender en anglais ça veut dire le genre sexuel. Nous en français on dit genre aussi pour dire un tipologie de choses, un concept en général. Le gender studies c'est le genre sexuel. Quand on dit ce mot gender qui n'existe pas dans cette spécificité unique et pas dans une signification double, cette spécificité unique en français, en anglais c'est le gender studies. Et avec gender studies on parle pas que des femmes della letteratura femminile o femministe, on parle aussi della letteratura e della critique LGBTQI+, donc de transsexuel, des homosexuels, de tout ce qui n'est pas hétérosexuel, pour dire brièvement. Et il faut dire que cette littérature, cette critique se développe tout dernièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut considérer déjà che dans l'histoire de la littérature, la présence féminine est très basse, sauf dans la modernité. Au Moyen-Âge, on n'avait pas de femmes qui écrivaient, à part Sainte-Catherine de Sienne qui écrivait pas, mais qui dictait ses propres pensées et se faisait écrire. Après, il y a eu des figures d'artistes, comme par exemple la peintre Artemisia, mais c'est des exceptions. Il faut considérer que la culture, c'était quelque chose qui était appannage, qui était quelque chose qui concernait que les hommes. Et souvent même, on assiste à des grands musiciens comme Strauss, par exemple, qui ont composé des œuvres musicales, des pièces musicales hyper connues, mais qui ont beaucoup l'aide de leur femme. Mais la femme, il n'avait pas le droit de signer la pièce, il n'avait pas le droit de signer les livres. Donc on voit comme toujours la femme était dans l'ombre de l'homme. Il faut dire che la première vraie écrivain, c'est Emily Dickinson. Emily Dickinson a écrit Orgueil et Préjugé dans l'Amérique du début du 19e siècle. Et par contre, elle était un écrivain qui n'avait pas un espace à elle-même, un bureau où elle écrivait. Elle écrivait le soir, elle n'était pas mariée, elle vivait avec sa famille, son père. Quand toute la famille allait se coucher, elle allait dans la table du salon et elle écrivait. Donc la femme, elle n'avait pas même pas un espace à la maison où écrire. Sur ce concept a insisté énormément Virginia Woolf, la grande poétesse folle et folle, pas parce que c'est un préjugé, parce que c'est une caractéristique qui donne à la poésie una emotività più accentuata. Virginia Woolf ha insistito sul fatto che la fama deve avere un spazio a il mem, o è il per creare, o è il per scrivere, o è il per conservare, perché lo spazio della fama, se è la cucina, le salon, la chambre, e l'ave jamais un bureau come le hommes, come le bourgeois hommes. Après, Virginia Woolf, dalle anni 50, on a eu un'altra figura très importante nella cultura femminista, je dirais, on est plus dans le féminin, on est dans le féminisme là. Et c'est Simone de Beauvoir. Qui est pour la première fois, elle a écrit un livre, Le deuxième sexe, où elle disait que les femmes ne sont pas le sexe doux, le sexe faible par rapport à l'homme. Les femmes ont une capacité pair à celle de l'homme, et pour certaines choses encore plus développées que celle de l'homme. Donc, on voit comment se commence à former à partir des années 50 une vraie littérature féminine qui après devient féministe. Pourquoi je fais une distinction entre féminine et féministe? Parce que la littérature féminine, c'est une littérature écrite par les femmes. Une littérature féministe, c'est une littérature engagée politiquement qui porte à l'avant le féminisme. Mais on parle maintenant de la littérature féminine et de certaines caractéristiques de la littérature féminine. Parmi ces caractéristiques-là, il faut considérer que la femme en elle-même elle a depuis la préhistoire toujours eu un rôle d'éducatrice, un rôle de mère, un rôle de formatrice. Et souvent, la littérature féminine se contradistingue pour cette rôle de formatrice. C'est comme si la littérature féminine est comme si l'autrice veut apprendre au lecteur à pouvoir... Elle veut éduquer les lettres. Elle les considère entre guillemets comme un enfant. Il faut éduquer cet enfant. Elle a une technique explicative et narratologique très linéaire. On parle de storytelling. Et la façon dans laquelle elle écrit s'est refait aussi à ce qui fait dans son analyse, propre c'est le formalisme russe. Fait dans son analyse du conte des fées. En fait, elle reprend la structure du conte des fées, la littérature féminine. Pourquoi? Parce que le conte des fées explique à travers des éléments magiques, à travers des éléments enfantines, explique au lecteur une histoire. Et le rôle, c'est explicatif. Le rôle, c'est éducatif. Il y a cette exigence éducative. Et donc, on comprend comment ça devient du storytelling, ça devient de la narration chronologique, de la narration ordonnée pour pouvoir faire comprendre ce qui écoute, ce qui lit. Le storytelling, c'est pour l'appoint la narration. Et cette narration, c'est un élément magique comme dans les contes de fées, pour pouvoir bien éduquer les lecteurs. Et je voudrais retourner sur cette fait que les cultural studies sont des études qui donnent beaucoup d'importance au message. C'est une critique militante, très militante et très engagée. Pour elle, les messages sont même plus importants de l'esthétique. Parce que c'est une littérature militante, c'est une critique militante et c'est un cinéma militante. Et l'importance du message se traduit dans une lutte pour toutes les minorités. On a vu les minorités par rapport au féminisme, on a parlé aussi des minorités LGBT, mais on verra aussi les minorités par rapport à ce qui ont défini les études postcoloniales. Je vous invite à écouter, en revenant aux élections, une chanson des partisans qui per me è molto più bella di Bella Ciao. Resemai in Italia non è più il fascismo, non ha il fascismo oggi, ma non è più la resistenza, non è più il partisan. Se chanson là s'appelle E io ero Sandokan, moi j'étais Sandokan, perché le partisan pur ne se faire par reconnaître individué des nazis, il se donnait des noms. Des noms tirés des contes, comme Sandokan, c'est un conte d'un aventurier de la Malaise d'Emilio Salgari. On écoute ces chansons-là avec ce nom Io ero Sandokan, qui est une chanson partisan reprise après par un groupe qui s'appelle Radicine al Cemento et qui est aussi la bande sonore d'un film magnifique que je vous invite à voir sur toute l'histoire de l'Italie jusqu'aux années de la guerre, de la lutte partisan jusqu'aux années 70, donc la lutte sociale des années 70. Et s'appelle ce film On s'était beaucoup aimé, c'eravamo tant amati. On écoute Io ero Sandokan.
Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir. Il tuo nome di battaglia era Pinin ed io ero Sandokan. Pronti a morire, ma della morte noi mai parlavamo. Parlavamo del futuro, se il destino ci allontana. Il ricordo di quei giorni, sempre uniti ci terrà. Mi ricordo che poi venne l'alba e poi qualche cosa di colpo.
voilà qui j'ai voulu vous mettre cette chanson là à propos de la lutte partisana, a propos de la situation actuelle et à propos des critiques des calcio alla stadio aussi. Pourquoi dans cette émission sur la critique littéraire je vous parle des partisans, je vous parle des élections? Parce que c'est une critique littéraire des militantes, c'est une critique littéraire des minorités, et c'est une chose importante donner l'espace à toutes les minorités. C'est une chose importante les minorités conçues comme les gens qui ont subi, qui est dans l'histoire comme les luttes de genre, etc., mais aussi dans la critique post-coloniale, on voit l'importance qu'on donne aux minorités au jour in demanda della colonizzazione. Ça, c'est une importance fondamentale, et c'est pour ça que je parle aussi des élections. C'est pour ça, parce que il faut être pas enfermé dans son propre monde, parce qu'un monde qui évolue, c'est pas un monde fait d'Italiens en Italie, de Français en France. C'est un monde où il y a différentes communautés qui on peut pas ignorer. C'est l'évolution de la chose, c'est même la littérature qui parle dans ces termes là Et à propos des études post-coloniales, pourquoi on les appelle post-coloniales? Le colonialisme, on sait qui est fini dans les années 50-60. Les États, ils ont commencé à avoir l'indépendance déjà à la fin, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais il y a un colonialisme qui reste non seulement à niveau économique, il reste aussi à niveau culturel. Par exemple, en Inde, beaucoup d'écrivains, ou même en Maghreb, écrivaient dans la langue du colonisateur. Avec la conscience, on écrivait en français, il y avait des écrivains arabes qui écrivaient en français, ou des écrivains indiens qui écrivaient en anglais. Avec la conscience de sa propre identité, on a changé la perspective, et il y a des écrivains, par exemple indiens, qui choisissent d'écrire en hindi o dans une de beaucoup de langues régionales parlées en Inde. Première chose, parce que c'est sa langue maternelle, c'est la langue maternelle de l'écrivain. Deuxième chose, donc c'est tout à fait naturel écrire dans sa propre langue maternelle. Deuxième chose, parce que c'est une langue qui est parlée par des millions de personnes. Si on pense à l'hindi, si on pense à l'arabe, c'est des langues qui sont parlées par des millions de personnes. Donc le fait qu'il s'était publié en français et après traduit en arabe, c'était quelque chose d'incohérent totalement. Maintenant, on assiste à l'envers, on assiste à la prise de conscience, on assiste au fait qu'on écrit en arabe et d'abord on publie en français pour un public francophone. D'abord on pense à notre propre culture, d'abord on pense à notre culture qui était colonisé, et on veut sortir de ce colonialisme. Il faut dire que le colonialisme était traumatique pour certains pays, comme le Portugal avec la décolonisation de l'Angola, ou comme la France avec la guerre d'Algérie. Pour certains autres pays, comme l'Angleterre, on parle de colonisateur, c'était un procès plus pacifique. Il s'est constitué le Commonwealth, il s'est constitué, on considère que le Canada e l'Australie considèrent le roi d'Angleterre comme leur président, qui n'a pas un pouvoir politique quand même. Et voilà, il faut dire que contre tout cet colonialisme économique et post-colonialisme, en fait s'appelle étude post-coloniale, si diffuse ces cultures indigènes, on va dire, ces cultures nationale des nations conquéries qui sont plus conquéries mais qui affirment leur propre identité. Avant de parler du colonialisme italien, parce que même si c'était très bref et c'était très réduit en termes de territoire, il y a eu aussi un colonialisme italien, on met une chanson qui a chi s'appella La Cumbia Dictatura di Skip and I. Se una figlia sudafricana che giù avec a Nederlandais e non costituisce gruppo, se è un gruppo tre sangagè. Cumbia della dittatura, il fuon petù, le stile de musique della cumbia o rock, il mélange un petù le stile, non è tutto entretanto cumbia della dittatura. Donc voilà che on revient à nous e on parle, come je vous ai dit, della situazione coloniale italiana, perché l'Italia ossia le colonie, se pas che la France, l'Angleterre, l'Espagna, il Portogallo e l'Allemagna. L'Italia elle avait des possessions en Libye conquérir pendant l'époque jolitienne, donc avant le fascisme, donc l'époque néolibérale. Et après, elle avait des possessions aussi dans les cornes d'Afrique, ce qu'on appelle les cornes d'Afrique, c'est constitué par l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie. C'est là conquérir pendant le fascisme. Il faut dire che la première possession coloniale d'Italie s'est faite, on n'avait pas encore Rome, parce que l'unité d'Italie s'est complétée en 1871. On n'avait pas encore conquéri Rome pour unifier l'Italie, mais on avait déjà des possessions en Érythrée, bien avant de voir Rome. Il faut dire que la politique menée pendant le fascisme, surtout avec les lois raciales de 1938, c'était vraiment terrible. Les discriminations qu'il y avait non seulement envers les juifs en Italie, mais surtout aussi dans les colonies envers les Noirs d'Afrique, c'était des discriminations terribles. Et par esempio, una delle semi-discriminazioni c'était la loi appelée le madamisme. Dans le madamisme, les Italiens ils avaient le droit de marier les érythréennes dans ce cas-là. Et dans la polygamie, les femmes n'avaient aucun droit, elles étaient comme presque des esclaves. Et par contre, il y avait des dames italiennes en Italie qui étaient les femmes officielles. Et il y a eu toute cette façon de conduire la politique coloniale qui a accomuné beaucoup de pays, non seulement l'Italie. Mais il faut dire aussi qu'au lendemain de la guerre, l'Italie perd toutes ses possessions, mais ce n'est pas qu'elle les perd économiquement, parce que Gheddafi arrivera à chasser les Italiens de Libye vraiment dans les années 70. Les Nations Unies confèrent à l'Italie la mission de paix qui sera un désastre en Somalie. Il y aura les partis socialistes dans les années 80 qui a son leader Dan Craxi qui s'occuperà dell'affaire somale e sarà un disastro, sarà una devastazione, un carnage totale della Somalia. Donc on voit comme même l'Italie qui a un état. Le fascisme disait on va vous donner un posto al sole, un place au soleil, parce que l'Italie c'était un pays des migrants. Les pauvres migraient vers les états riches, vers la France, vers l'Amérique, vers l'Angleterre, vers le sud de l'Amérique à l'époque aussi. Mais le fascisme voulait une nation allargée, voulait une nation qui les Italiens pouvaient être des vrais Italiens. Aussi en Afrique, dans les colonies. Donc c'était le concept de l'action allargie qui n'accumulait pas seulement l'Italie, mais bien d'autres États. Et il faut aussi dire que tout cet mouvement-là a donné qu'aujourd'hui place à un courant post-coloniale, des critiques post-coloniales, comme on a vu, il y a des écrivains qui écrivent dans les langues maternelles, mais il y a aussi des écrivains qui sont nés dans les colonies, mais qui sont d'origine italienne, et on pense au Piennois français, par exemple, et qui n'ont pas une appartenance ni à l'Italie ni à la colonie, parce qu'ils sont les rois de la colonie, mais ils sont pas non plus italiens. Donc il y a une complexité dans la morphologie, dans la physionomie de la culture post-coloniale. Il y a une complexité, il y a des écrivains qui sont venus en Italie et qui sont des Africains qui sont venus en Italie et sont des Italiens de deuxième génération, on va dire. Donc il y a aussi une deuxième génération qui arrive, les pères restent appartenant aux colonies et les enfants deviennent italiens ou d'autres États européens. Et il y a cette mélange de culturel, cette mélange entre appartenance, entre la culture du père et la culture du pays d'arrivée. Voilà qui tu sa c'est pour ce qui concerne les études coloniales et post-coloniales, je vais vous proposer d'écouter une autre chanson toujours de Skip and Die qui s'appelle Love Jihad à propos de cette étude post-coloniale. On l'écoute.
Girl, raging right across the world. Blow, blow, blow like a volcano. Shake my hurricane curls. So if you wanna come and get fresh with me, have you bumping, bumping up and down the street.
Don't you know that I'm a
set, 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 and we.
Voilà, con Reviano, dans cette étude des minorités, dans cette militance critique littéraire et della culture contemporaine, il faut parler aussi de l'écocritique. Il faut parler du fait, l'écocritique c'est la critique écologique. Il faut parler du fait que pendant toute l'histoire dell'umanità, la culture littéraire, la peinture, la sculpture, c'était presque exclusivement anthropocentré. Anthropocentré, ça veut dire que l'homme, c'était le centre de l'univers. Par exemple, dans la peinture médiévale, on voit comme les animaux sont représentés tout petits par rapport à l'homme, par rapport même à Jésus, Christ, par rapport au saint. Donc il y a saint, il y a toujours cette prépondérance de l'homme sur la nature. Le premières a rappresenté dans une échelle réelle les arbres, les animaux par rapport all'homme. C'était Giotto, un peintre du 1200 italien qui a appena la chapelle de l'église de Saint-François à Assisi. Dans cette église il y a des peinture magnifique avec un bleu ciel, on abandonne l'or de la peinture byzantine, du mosaïque byzantin, pour faire le ciel couleur bleu, donc le ciel à son vrai couleur, et les animaux sont représentés dans leur dimension réelle par rapport all'homme. L'homme n'est plus le centre de la peinture, mais cette culture anthropocentrique continue et persévère. On pense toujours all'Italie della Renaissance, où l'homme est vraiment le centre du monde. On pense all'Italie de Galilée, on pense à la France des Lumières, dell'epoca dell'illuminismo, où l'homme ha una centralità fondamentale. On pense au romanticisme. Oui, la nature dans le romanticisme commence à avoir son pas, mais c'est toujours le reflet de l'âme de l'homme. L'infini, le surmongrand, la puissance de la nature, c'est rien d'autre que le reflet de l'âme puissante de l'homme qui se mue devant la nature, parce que c'est le reflet de son âme. Mais et on va dire qu'il y a un écrivain américain, Thoreau, qui écrit un premier livre sur la nature, où la nature a sa centralité. Et ce livre décide de l'écrire dans une cabane qu'il avait à côté d'un lac. Je ne vous dis pas le titre, vous allez le chercher. Ça, c'est le premier livre où la nature a la centralité. Ça, c'est le premier livre où ce n'est pas l'homme le protagoniste. Donc la nature peut être aussi protagoniste. À côté de l'homme, parfois, mais peut être aussi un protagoniste ou un coprotagoniste. On pense par esempio a Jonot, l'homme qui peintait les arbres. C'est un conte d'un homme qui allait se promener pour planter les arbres. Donc on voit que la nature a un poids rilevante dans cette œuvre. Et on va dire qui, dans le procédé de mettre en relief la nature, on pense par esempio nel realismo, l'homme ha una centralità, ma où on procède par mimesis, par imitation du réel. La mimesis, ça veut dire imitation, reproduction. On pense à cette imitation et reproduction du réel. Jusqu'à quand on passe de l'imitation du réel à le sujet de la composition, le sujet de l'œuvre devient le réel. Donc c'est plus l'imitation du réel, mais c'est la nature même qui prend le pas. Et je vais conclure en revenant avec une autre chanson, et en revenant, on fait des sauts dans cette émission-là. On revient aux études de genre pour conclure, parce que sont les études les plus importantes dans ce panorama, avec les études postcoloniales, bien sûr. Et on met l'accent sur la révolution féminine, parce que féministe c'est un terme peut-être obsolète qui j'aime pas trop non plus, et cette révolution féminine on la retrouve dans la chanson Trap, le ragazze di Calverate, le figlie di Calverate, che c'est un quartier de la banlieue de Milano, banlieue pauvre naturellement. On l'écoute.
Yeah, quartiere IACP fino all'Oditi BB sui muri vestiti B, tu sai com'è chiamarci. Le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate. A 17 un figlio il marsupio pesa un chilo sognando casa Rio, scappiamo Nino Nino. Le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate. Qui non ci serve che fai la dura, almeno a noi non ci fai paura. Le bella magra, le bella curva, bella truccata, bella col burka. Mamma, io esco senza il permesso, andiamo in centro senza il biglietto. Amo il tuo stile, qui vale zero, io faccio stile nel 9-0. Vi racconto la zona mia, facciamo business in lavanderia. Da piazza in Subria la senti la scia, tu wanna be io da via più via. Da dove vengo alzo quattro dita, faccia da bimba ma sono maldita. Il tuo ragazzo, amica mia, a studi
noi troppa fantasia.
Le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate. Z4.
Il video di Mischeta porta a Venezia, bella sorella. Ma ora ci pensa Serena, la situa è diversa, chiedilo a Tedua. Giro in ciabatte a Piazza Le Cuoco, guardo i fuochi in cielo, mi chiedo chi è morto. Salam Aleikum quando entro in negozio, niente radio, c'è il Corano in sottofondo. Siamo le ragazze di Calvairate, non capisci, è normale. Non sei di qui, meno male, i tuoi amici marchettare. Usiamo i calzini come portafoglio, vivo il quartiere come lo vive un uomo. Oye papi, noi amar Melinda, perché si me impingo me pongo de pinga.
Le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate. Z4.
E pur finire a botte il fonore, la cultura LGBTQI+, am parlando un libro che si chiama Fernanda, se un libro che è scritto per un trans brasiliano che è in prigione in Italia. E pendant sa prigione, l'ha scritto in italiano tre incorretto. E dalla prigione gli aveva un brigatista e un berger della Sardegna che le berger le scrive a demain avec Fernanda la trans e le brigatista pre il a repri le cride Fernanda e il a recri en parlant par contre en première personne. Donc, je vous invite à lire ce livre totalement expérimental qui était traduit et qui était publié en français par une petite maison d'édition marseillaise, découvrez-la, et qui était traduit pour une, parmi les autres, était traduit par des femmes, beaucoup de, les traductrices c'est essentiellement des femmes, parmi les autres, Madame Judith Aubert. Je vous salue et je vous dis. À la rentrée, à bientôt, et je vous laisse avec cette dernière émission de critique littéraire qui est une critique de cultural studies ou pour culture, longtemps la culture militante qui porte en avant toutes les minorités, qui soient postcoloniales, qui soient liées à l'écologie, à la lutte contre les écomafias, qui soient liées à la lutte des genres, gender, qui soient liées à la lutte LGBTQI+. Ces minorités-là, sûrement, sont pas représentées par le Rassemblement national. Sûrement, j'espère qu'ils puissent être représentés par une gauche réelle, qui c'est plus une gauche stalinienne, qui c'est plus une gauche du communisme idéalisé par Karl Marx qui c'est acronistique. La gauche d'aujourd'hui, c'est une gauche qui défend les minorités. Mais en tout cas, je vais conclure avec une phrase de Louise Michel, un grand anarchiste français, qui nous a dit: tous les pouvoirs sont maudits, c'est pour ça que je reste anarchiste. Merci et bonnes vacances, on se voit à la rentrée. Ciao de la part de Simone et la Pointe, le nouveau inconnu animateur.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Atteggio a prepotente, a picchiatello, col saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, papputello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
Marcello, sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per vingrindina che ce l'ho? Marcello, son fatto come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
Marcello, col microscopico cervello, più piccino di un disello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti dalla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Raffaiati e vesto con quel certo non so che. Ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, a Marce, beh, che c'è?
Marcello,
se a mezzanotte canterello qualche sciocco ritorniello, canto tutti sono quello.
Marcello,
ma soldato questo quello, ma sta a casa ogni ora Marcello. E perché? Perché son bello, sono il bello di mamma.